France Culture.
Bonjour Daniel Poli.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode. On vous a laissé de retour d'un road trip aux États-Unis en 1969. Vous partez vous installer à Kiel, en Allemagne, en bord de mer, ville ouvrière, pour étudier l'agronomie. Comment c'est venu l'agronomie ?
Parce que, entre-temps, donc, maintenant je suis bachelier, je me suis rendu compte que en Europe, on me laisserait jamais tranquille, on me laisserait jamais être. Savoir, je parle français, je parle allemand, je parle anglais, mais on me pose toujours la question, d'où c'est que vous venez ? D'ici, ben non, il faut toujours que je m'explique. Donc j'ai décidé de m'exiler, de partir d'Europe, de vivre à l'étranger, de vivre dans le sud, dans des pays en développement, comme on disait à l'époque. Donc, il faut que j'apprenne quelque chose qui soit utile, parce que c'est de ça qu'on parlait dans les années 60. Être utile, contribuer au progrès humain. Et donc, voilà, il faut être utile, non pas étudier des trucs qui sont plutôt des intérêts privés, par exemple l'histoire ou linguistique ou de la philosophie, mais plutôt la littérature, mais plutôt quelque chose qui pourrait mener à un emploi réel dans une institution, dans un pays du tiers-monde. Donc, l'agronomie semblait être le choix le plus approprié vu la quantité de paysans dans le tiers-monde. Évidemment, j'avais pas prévu que à Kiel il y avait la faculté d'agronomie. C'était un refuge pour toutes sortes de vieux nazis. Alors quand je parle de nazis, c'est pas figuratif, c'est des vieux nazis, parce que à l'époque il y en avait encore, ils étaient pas morts. Alors ils rendaient la vie impossible des gens, c'était misogyniste, c'était vraiment désagréable, et de toute façon j'avais pas d'argent. Donc la première année j'avais pas de bourse. Ça coûte rien de faire des études en Allemagne, mais il faut quand même payer le loyer d'une chambre et il faut se nourrir. Donc je faisais des nuitées dans des hôpitaux et je faisais voilà. Alors ça suffisait pas, bien sûr, puis j'étais toujours fatigué pendant les conférences. Donc j'avais entendu parler de contrats de 100 heures qu'on peut faire à l'Institut d'océanographie.
Oui, parce que qui abrite aussi un institut océanographique,
oui, très
de
connu,
renommée internationale.
Exactement. Kiel est une université tout à fait moyenne quant aux différentes disciplines, mais pas pour l'océanographie. C'est là que Victor Hansen a vécu, par exemple, qui a inventé le concept du plancton. Et l'océanographie physique aussi est très, très, très développée. Donc, il y avait à cet institut, on m'a raconté, des contrats de 100 heures qu'on pouvait faire, et que donc je me suis ramené, j'ai fait un contrat.
Donc c'est en fuyant les nazis de la fac d'agronomie que vous vous êtes retrouvé en fait
en océanographie.
En océanographie.
Voilà, c'est
cool. Si on le résume.
Oui, c'est ça.
On peut dire ça comme ça.
Exactement ça.
En même temps, Daniel Poli, vous aviez déjà une conscience politique et sociale forte. D'ailleurs, vous vous disiez, vous vouliez être utile dans le tiers-monde, ensuite. Et à l'époque, finalement, vous n'avez pas spécialement d'intérêt pour les sciences de la nature. C'est beaucoup plus cette conscience politique qui vous meut. D'ailleurs, vous militez déjà dans une organisation marxiste, héritière de Rosa Luxembourg, les spartakistes, à l'époque.
Oui.
C'est là que vous y avez forgé votre conscience.
Exactement. Et en fait, on a créé une cellule à l'Institut Océanographique. Je me ramène à l'Institut d'Océanographie et j'obtiens un contrat où je suis censé... ils ont des échantillons de boue dans des formoles. Et dans cette boue, il y a des vers. Alors, il faut sortir les vers de la boue pour qu'ils puissent être identifiés, quantifiés et tout. Alors ça, c'est un travail puant, dangereux, dégoûtant. Et après 2-3 heures, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai bricolé une machine, une espèce de machine à laver.
Pour trier plus vite.
Pour trier plus vite. Alors, ça m'a pris une dizaine d'heures et je l'ai présenté à l'atelier qui appartenait à l'Institut. Ils m'en ont fait 2-3 versions, très belles, et je les ai montrées au bonhomme qui m'avait donné le contrat. Et bien sûr, il a donné ces machines aux autres étudiants qui faisaient. Alors j'ai fait une dizaine d'heures en tout et il m'a payé les 100 heures.
C'est la première grande machine. Après, il y en aura d'autres. C'est important que vous en parliez, cette machine, parce que vous êtes un inventeur de machines aussi.
Alors, cette machine, non seulement elle facilitait le travail, on travaillait beaucoup plus vite, mais elle était, on obtenait plus de verre parce qu'on les voyait bien. Je vais avoir une audience avec le grand professeur, le grand maître.
Gottlieb Hempel. Qui à l'époque, chef de l'Institut, est l'un des océanographes les plus influents.
Exactement. Il pouvait téléphoner au chancelier et lui dire j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça.
C'était, il obtenait.
J'ai une audience. je venais de commencer, j'étais en mon deuxième semestre. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? C'était un défi. J'accepte les défis. C'est ça qu'il m'a dit. Bon, alors il m'a dit, très bien, si vous avez besoin de quelque chose, dites-le-moi. Alors, ce que je voudrais faire, c'est aller en Afrique. Alors, il m'a dit, bon, d'accord, je vais écrire à mes collègues, parce qu'il avait travaillé à l'UNESCO avant, écrire à mes collègues en Afrique, et je vais voir s'il y en a un qui vous accepte. Il y en a un qui m'a accepté, au Ghana, et... il m'a donné 2-3 caisses d'équipement, de l'argent, et je me suis retrouvé au Ghana en mon troisième semestre. Donc, j'étais undergraduate. Je venais de commencer à faire le travail de terrain que j'allais utiliser pour une thèse de master.
Donc, sur les pêcheries de la lagune de Sakumo.
Les pêcheries d'une lagune. J'ai vécu 4-5 mois au Ghana. J'ai un jour de travail sur la littérature, sur ce que je lisais. L'autre jour, j'allais dans ma lagune, qui avait un mètre de profondeur. J'allais jusque là.
De l'eau jusqu'au ventre?
Jusqu'au ventre, pour échantillonner du poisson, échantillonner du plancton, mesurer le flux d'eau qui entrait, qui sortait de la lagune. Et je l'ai décrite plus tard dans ma thèse de master, et j'ai fait 4 ou 5 publications.
Ce qui est énorme, hein, déjà, en 4 ou 5 mois de présence.
Oui, oui. Et ça m'a permis de faire mon master, donc, et de me rattraper, parce que j'ai obtenu mon master après 8 semestres en tout, y compris un voyage aux États-Unis qui m'a pris un semestre aussi.
Cette lagune du Ghana, vous y êtes retourné 20 ans plus tard.
Oui.
Elle avait disparu.
Elle n'avait pas encore disparu. Elle était plus petite. Ouais. Et les poissons étaient plus petits, mais elle était encore là et la pêcherie existait encore. C'est l'année passée que je suis allé au Ghana, que je suis retourné.
Dans les années 2020, vous y êtes retourné en 2024.
Et la lagune a disparu. Alors là, ça m'a foutu un coup de poing comme ça, parce que...
En 40 ans, donc, elle a disparu.
Exactement. Mais imaginez, 50 ans, ça fait 50 ans. Et imaginez, on lit toujours que les écosystèmes disparaissent, que la biodiversité disparaît. Mais on a travaillé sur un endroit spécifique, avec une spécificité de sa biodiversité, de tout, et elle a cessé d'exister. Il y a de la brousse qui pousse, des ordures partout, qui empêchent le passage de l'eau entre la mer et la lagune. La lagune n'existe plus. Et donc, ça m'a bouleversé. Parce que c'est ça, les changements, la perte de biodiversité.
Vous, en tout cas, vous n'avez pas chômé et pas arrêté de vous diversifier. Puisque après le Ghana, en 1973, vous faites un voyage en URSS et vous participez un semestre aux États-Unis, où vous devenez un spécialiste des poissons-chats. J'aimerais même que vous nous parliez des poissons-chats.
Oh, donc
si vous vous en souvenez.
les poissons chats. En fait, je suis allé en Arkansas, où la culture des poissons chats commençait à démarrer, et j'ai visité les étangs, les différentes entreprises, et donc j'ai décrit ça dans une revue allemande. Ça m'a fait, j'étais l'expert des poissons chats pour quelque temps. Et aussi, en 73, j'ai participé à une croisière d'un bateau de recherche allemand, d'un énorme machin, qui est allé au Labrador et en Terre-Neuve et en Groenland. Et c'était pendant la ruée vers les morues, donc cette ruée qui a détruit un stock de morues qui avait été exploité depuis 1508. On peut documenter la pêcherie qui existait, française et anglaise et tout, depuis 1508. Et elle a été détruite en deux, trois décennies, avec l'entrée de chalutiers d'Europe, à partir de 1950 à peu près. Et c'était en 1973, donc je suis allé avec un copain, on est allé 6 semaines dans un bateau, et c'était une destruction. C'était de la folie, parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Je pouvais voir, en tant qu'étudiant, que les poissons qu'on attrapait, ils n'étaient même pas enregistrés. C'était...
En fait, c'était la première fois que vous participiez à une campagne comme ça, en haute mer, de chalutage industriel, et que vous voyiez ça de près.
Exactement. Et en plus, j'ai pu participer... Enfin, le bateau a quitté Nuuk, Gotthard, qui s'appelait à l'époque, au Groenland, et était censé retourner en Allemagne. Et les étudiants n'étaient pas appréciés des pêcheurs, des marins, et ils ne nous parlaient pas, ils nous détestaient. Ils nous parlaient encore moins quand on est parti de Nuuk. Et
pourquoi ils ne vous aimaient pas?
Parce que les étudiants sont... ils distribuent des pamphlets, distribuent des tracts au lieu, pendant que les ouvriers vont au boulot. Donc des conneries, c'est dans des bêtises que racontaient les matelots sans bateau. Mais en fait, quand on a quitté Gotthard, personne ne nous parlait. Et au bout d'un certain temps, on est retourné à Gotthard. On a voulu savoir pourquoi. Et ils n'ont pas voulu nous le dire. Il a fallu 2-3 jours jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils avaient fait monter dans le bateau des femmes inuites qui les avaient violées et que l'une d'entre elles était restée moitié morte dans des toilettes et qu'ils ont dû la ramener à la maison. Et là, ça a été une horreur. Ils avaient annoncé que ces femmes viendraient. Ils l'avaient annoncé, ils se vantaient déjà de ce qu'il allait faire. Mais ça a mal fini. Et j'ai rapporté ça au professeur Hempel. Je lui ai dit que j'allais publier ça s'il n'interdisait pas tout de suite ce trafic. C'était absolument dégoûtant. Enfin.
Ouais, c'est évidemment une dernière escale qui est restée gravée dans votre mémoire,
oui,
et dont vous vous souvenez.
Et surtout que j'ai eu une histoire similaire plusieurs années plus tard aux Philippines. On y reviendra, je pense. Parce que ça a aussi marqué ma carrière. Enfin.
Toujours est-il qu'après cette expérience, vous êtes embauché par l'Agence allemande pour la coopération technique, la GTZ.
Oui.
Et vous partez en Indonésie.
Bon,
et
là, pas on tout de suite, 1900... pas tout de suite.
Ah ben oui, mais il faut bien avancer, parce que sinon on n'y arrivera jamais.
on m'apprend le swahili. J'apprends le swahili parce que je suis censé aller en Tanzanie. Et je suis censé aller en Tanzanie, donc j'apprends le swahili. J'apprends les poissons d'océan Indien au musée Senckenberg de Francfort. Et quand j'ai fini le swahili et l'apprentissage des poissons, on me dit que j'irai pas en Tanzanie, mais que je peux aller en Indonésie. Donc me voilà à Jakarta.
À Jakarta, où vous arrivez dans des conditions un peu particulières, puisque peu de temps après votre arrivée, vous avez un accident de voiture qui vous laisse allongé.
Non, non, non.
Non quoi ?
Mais choqué. J'étais pas blessé. J'étais couvert de formaline, parce qu'il y avait de la formaline dans la voiture. Et c'est là que... que j'ai découvert que... Enfin, il y avait autour de moi... À Java, il y a de la végétation partout. dans la campagne. Alors, il y a des arbres, mais aussi il y a des petites maisons en paille ou non en bois. Et puis il y a une main qui sort de la végétation qui m'offre du lait. Alors, en bois. Moi, je suis couvert de formaline.
Vous êtes un peu choqué quand même. Oui. Hein, vous êtes choqué.
Je suis choqué. Et une autre main qui me donne quelque chose à manger. Qu'est-ce que c'est ça? Et je regarde, c'est plein de jeunes filles. Et c'était une maison close de campagne. Alors, moi, je savais pas. C'est mon collègue qui avait, il avait amené le chauffeur qui était vraiment blessé à l'hôpital, mon collègue indonésien. Il m'avait laissé là en campagne et il m'avait laissé là en face d'une maison close de campagne. Alors, j'ai dû lui promettre, quand il est revenu de l'hôpital, de ne jamais dire où on avait eu l'accident. Parce qu'il aurait, évidemment, il avait une épouse qui lui a posé des questions.
Mais dites-moi, Daniel Poli, en 1975, à Java, en Indonésie, c'est dangereux d'être un gauchiste?
Ah, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit à personne. Il n'y avait que mon partenaire qui le savait. Et il n'a rien dit à personne, mais vous avez raison. Même les étrangers, étrangers risquaient leur peau. Et en fait, mon premier patron a été renvoyé parce qu'il il était trop paresseux. J'ai eu un nouveau patron et il me détestait tout de suite, et il a utilisé ça pour ne pas renouveler mon contrat. Donc, je suis revenu après 2 ans. J'ai pas pu continuer, mais j'ai pu voir quand j'ai fait ces campagnes de chalutage, j'ai pu voir des problèmes techniques que pour lesquels j'ai décidé de trouver des solutions.
En particulier, alors on peut les développer. Vous découvrez, si j'ai bien compris, vous découvrez que ce qu'on connaît en Europe à cette époque-là, c'est-à-dire on connaît les poissons, on sait comment ils s'appellent, on sait comment ils grandissent, on sait comment ils se reproduisent, on sait comment ils meurent de manière naturelle. Eh bien, en zone tropicale, on l'ignore. C'est ça, en quelque sorte ?
C'est ça. C'est exactement ça. On ne connaît pas la croissance des poissons tropicaux. On sait qu'elle est différente parce qu'il fait chaud. Alors, on sait que la mortalité naturelle est plus élevé, mais on ne sait pas
comment
de combien.
Ça se fait.
Et on ne sait pas même le nom des poissons, parce que la moitié des poissons qui tombent sur le pont du bateau ne sont pas décrits dans les livres qu'on a. Donc, j'ai choisi plusieurs thèmes pour ma thèse, pour mon travail scientifique, et je me suis dit, voilà ce qu'il faut que je travaille, que je trouve des solutions. Pourquoi je trouve des solutions? Et j'en ai trouvé plusieurs, et ça a été ma thèse de doctorat.
C'est un gigantesque travail de collecte d'informations,
oui,
que vous avez ramassé, jamais publié, sur la taille des poissons en fonction de leur âge, qui conditionne leur taux de croissance, et vous vous inspirez d'équations, en particulier,
oui,
d'une équation fameuse de Ludwig von Bertalanffy, je ne sais même pas comment on le prononce, mais vous allez le dire mieux que moi. Dites-moi, pourquoi analyser les taux de croissance des poissons, pourquoi évaluer leur âge et savoir combien meurent de façon naturelle ou pas, c'est important.
Parce que si vous voulez gérer les poissons, il faut contrôler la mortalité par pêche. La mortalité par pêche, donc l'impact que nous avons sur les poissons, on doit le mesurer. Et c'est facile d'estimer la mortalité totale, c'est-à-dire la mortalité naturelle plus la mortalité par pêche, c'est facile à estimer. C'est une fonction de la relation entre les petits poissons et les gros. Entre les poissons âgés et les jeunes. C'est facile à estimer. Mais il faut ensuite décomposer les deux mortalités pour savoir si la mortalité par pêche est trop élevée ou pas assez. Alors, il faut donc connaître la mortalité naturelle pour pouvoir la soustraire de la mortalité totale. Et le premier papier que j'ai écrit qui a eu beaucoup de succès, c'est j'ai fait une collection de toutes les valeurs de mortalité naturelle qui existaient à l'époque, et je les ai reliées aux paramètres de croissance et à la température dans une équation empirique.
L'équation Pauli, hein.
L'équation de Pauli. et ça a été mon premier grand succès, technique. Le deuxième, c'est estimer la croissance des poissons. Et là, en général, on peut estimer les croissances des poissons donc la relation entre taille et l'âge, parce qu'ils ont des anneaux annuels, les poissons ici, ils ont des anneaux annuels dus à la différence entre l'hiver et l'été. Comme les arbres d'ailleurs, ils ont des anneaux. Les poissons tropicaux n'en ont pas. Surtout ceux d'Indonésie n'en avaient pas. Et ils ont, parce que la différence entre l'hiver et l'été, il n'y a pas de différence. Et donc, on peut estimer la croissance en traçant des courbes à la main. C'était à l'époque qu'on le faisait, à travers des fréquences de taille. C'est comme dans une école, les enfants qui sont les plus petits, ils ont 6 ans. Les enfants qui sont un peu plus grands, ils ont 8 ans, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire la même chose avec poissons, mais c'était fait à la main. Seulement, à l'époque, les premiers ordinateurs sont sortis, personnels. Et j'ai inventé une méthode, où on utilise des ordinateurs pour tracer des milliers de courbes et choisir la meilleure d'après certains critères. Et ça, je l'ai appelé Electronic Length Frequency Analysis, éléphant. Éléphant avec un F. Et ça a été, je pense que c'est surtout le nom qui a plu aux gens, ça a été un succès incroyable. Et d'ailleurs, ça continue de l'être, parce que ce modèle est toujours utilisé.
On continuera d'ailleurs, dans l'épisode suivant, Daniel Poli a parlé de ce travail qui est un travail aussi théorique que vous avez mené avec cette thèse que vous avez soutenue en 1979, et bien des années plus tard. Mais j'aimerais qu'on s'arrête, pour terminer cet épisode, sur l'état de la recherche en océanographie à la fin des années 70, pour qu'on comprenne bien. À ce moment-là, l'halieutique, qui est cette branche de l'océanographie dans laquelle vous vous êtes spécialisé, c'est vraiment une branche. De quoi est composée la recherche océanographique à ce moment-là? Où elle en est? Où on en est? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et sur quoi se concentre l'halieutique qui était votre branche?
À l'époque, elle se concentre sur la croissance. Donc, il faut connaître l'âge des poissons. Il faut connaître leur croissance, leur mortalité naturelle. Et ensuite, il faut faire des équations. On met ça dans des modèles mathématiques, d'où on dérive la taille optimale à laquelle on doit les attraper. Donc, cette taille optimale, elle peut être fonction du maillage des filets. Donc, en principe, une morue qui atteint 1 mètre, la taille optimale pour l'attraper, disons, c'est 40 centimètres. À partir de 40 centimètres. Par contre, un anchois qui ne croit que 20 centimètres, ben, la taille optimale, c'est peut-être 5 ou 10 centimètres. Et donc, chaque pêcherie a un optimum de mortalité par pêche et de maillage. Évidemment, tout ça, c'est basé sur l'idée qu'on a une espèce spécifique à attraper. Qu'on a une pêche monospécifique.
C'est ça, on pêche la morue, on pêche l'anchois,
exactement. Et en fait, c'est jamais le cas. Parce que si on pêche des morues, 50% des prix seront des morues, le reste, ce sont toutes sortes d'autres poissons. En zone tropicale, ça n'existe même pas. Il n'y a pas d'espèce, quand on fait du chalutage, il n'y a pas d'espèce dominante. Donc on pêche tout, et on pêche aussi autant les poissons qui sont gros que les poissons qui sont petits, avec le même maillage, qui est toujours trop petit. Et donc, l'halieutique à l'époque, dominée par les princes de l'halieutique, donc Beverton, Holt et autres, des bons scientifiques, étaient uniquement utilisables dans les régions froides. Dès qu'on va dans les zones tropicales, c'est fini. Rien ne marche. Donc il faut tout réinventer. Et en partie, j'ai réinventé ce qu'il fallait pour pouvoir appliquer les méthodes que j'avais apprises à Kiel, pour appliquer dans les tropiques. Et les ordinateurs qui sont sortis, les ordinateurs personnels, et avant même les calculettes programmables, sont venus à la rescousse parce que, en fait, j'ai pu utiliser mettre des équations, ces équations compliquées, sous forme de petits programmes avec une petite bandes magnétiques qu'on mettait à l'intérieur qu'on faisait glisser dans les calculettes qui donnaient des solutions. Et donc ça a été un grand succès. Et d'ailleurs, ces trucs continuent. ces méthodes continuent à être utilisées dans les pays du Sud.
Est-ce que ces deux expériences de terrain qu'ont été le Ghana et l'Indonésie pour vous dans les années 70, Daniel Pauly, ont été vraiment fondateurs de tout ce qui va suivre ensuite pour vous?
Exactement, c'est exactement le cas. Et en plus, ça a été le fondateur de ma famille parce que je me suis trouvé avec le père. J'avais une petite amie en Indonésie. Elle avait décidé de mettre le grappin dessus et n'a plus pris sa pilule. Et donc, quand j'ai quitté l'Indonésie, j'ai appris que je deviendrais père. Et donc, elle connaissait mon histoire. Elle savait très bien que je m'occuperais de son fils. Et c'est ce que j'ai fait. À 2 ans, je suis allé en Indonésie pour le chercher. Et là, ça finit le chapitre Indonésie.
D'une certaine façon, mais ça l'ouvre d'une autre façon. À quel moment vous êtes-vous dit « j'ai trouvé ma voie, c'est là que je vais me réaliser » ?
Je pense que c'est ça. Quand j'ai fini ma thèse de doctorat, donc
79,
c'est le début de ma carrière aux Philippines et dans toute la zone intertropicale. Et là, je suis resté jusqu'à maintenant, quoi.
Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser, puisqu'on parle de chalutage. On a évoqué vos sorties en mer, en particulier cette scène inaugurale en mer de Java, mais aussi, bien sûr, cette grande campagne océanographique que vous avez suivie du Canada au Groenland, avec cet énorme
bateau à
mangue. Voilà. Est-ce que vous aimez ça, les voyages en mer?
Non, pas trop. J'ai toujours le mal de mer.
Ah bah c'est embêtant. Les premiers jours,
j'ai toujours le mal de mer. Heureusement, pas comme Darwin, tout le temps, qu'il a eu tout le temps. Non, 3-4 jours, j'ai le mal de mer. Et je dois dire, les gens s'attendent toujours, parce que je travaille sur la mer, que j'aime la mer.
Ah oui.
Et tout ça, c'est pas... J'aime être tranquille dans un coin, dans une bibliothèque. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans une bibliothèque que sur un bateau. Et les poissons sont bien gentils, mais sont pas terriblement intéressants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les défis intellectuels, c'est le défi théorique. Parce que, en fait, j'ai décidé d'apprendre quelque chose de pratique, mais en fait, je reste théoricien de cœur.
Eh bien, c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant, Daniel Pauly, la science de la capture des poissons, l'aspect théorique. Vous essaierez, si vous le voulez bien, d'être particulièrement pédagogue pour que nous comprenions tous et toutes. On se retrouve demain. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre l'épisode 3, la science de la capture des poissons. C'était À Voix Nue avec Daniel Pauly. Réalisation Véronique Samouilov, prise de son Yvan Charby, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brou est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.